here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hatata.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Radio Galère, émission Livres et Amis. Nous sommes le mercredi 8 juin et nous vous présentons donc Françoise et Dominique, l'émission Livres et Amis avec aujourd'hui un livre de Tahar Bouhafs, Ceux qui ne sont rien, paru aux éditions La Découverte cette année, donc en début 2022, et qui est en vente à 15 euros. La France de ceux qui ne sont rien, c'est vraiment le sujet de ce livre de Tahar Bouhafs. C'est un récit à la première personne d'un jeune journaliste engagé. Dans ce livre, il pose son regard sur un pays fracturé par les inégalités sociales et le racisme. Il revient sur son itinéraire singulier, au travers duquel il dresse un portrait empathique d'une France oubliée et méprisée, la France de ceux qui ne sont rien. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est que c'est véritablement une autobiographie, si on peut dire, qui s'étend sur 5 ans et qui est véritablement un témoignage sur comment se crée un engagement, c'est-à-dire comment un jeune des banlieues, révolté contre tout, contre tous, va organiser sa colère, comment peu à peu il va justement s'engager. Et c'est ce témoignage d'une entrée en engagement et d'un engagement ensuite qui perdure. C'est donc ce témoignage d'engagement qui m'intéresse. Comment sort-on du mépris, de la fracture sociale, justement? C'est essentiellement, vous le verrez, à travers des rencontres. Mais cette façon de Tahar Bouhafs de s'engager, elle est très sympathique et elle est surtout très intéressante. Dans son livre, les chapitres sont rythmés par un certain nombre de citations d'Emmanuel Macron, puisqu'en fait, Emmanuel Macron a dit en 2017, en 2016 peut-être déjà, avant d'être président, « Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. » Donc, en fait, Tahar Bouhafs nous dit « Lorsque j'ai entendu cette déclaration d'Emmanuel Macron, j'ai tout de suite su qu'elle ciblait des gens comme moi. » Que cette déclaration, la première d'une longue série, qui marquait incontestablement le début des années Macron, c'était les années mépris. Et donc, ce que je raconte, c'est que pendant 5 ans, j'ai voyagé dans cette France de ceux qui ne seraient rien, pour raconter justement les luttes des travailleurs, des pauvres, des immigrés, pour faire entendre le courage et la dignité de ceux qui sont opposés à un pouvoir de mépris, dans l'espoir, enfin, que viennent les jours heureux. Alors les jours heureux, malheureusement, on n'y est pas tout à fait, mais l'intérêt du récit de Tahar Bouhafs, c'est de montrer, en attendant les jours heureux, de montrer au moins les combats et de faire découvrir justement l'engagement. Cet engagement, moi j'aurais tendance à dire qu'il se construit en 3 étapes. On va voir déjà la première, le premier récit qui commence en mars 2016.
Place de Verdun, Grenoble, mars 2016. Voilà, j'y suis. À l'horizon, ça tire, ça balance des pétards, ça allume des fumigènes, ça éclate de partout. Si on m'avait dit qu'une manifestation faisait autant de bruit, franchement, qu'est-ce que je fous là? Apparemment, il faut quitter le parvis de la préfecture de l'Isère, place de Verdun, puis marcher tout droit. Et après, pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Emra est venue avec moi. Emra, c'est un gars du village olympique, un quartier du secteur 6 de Grenoble, qui n'est pas très loin du mien. Je l'ai rencontré au Mille et Une Nuits, un bar à chicha des Chirolles. Les Mille et Une Nuits, c'est un peu notre bar PMU du coin. Le soir, on regarde des matchs de foot ou des clips sur Trace TV. La nuit, on joue au loup-garou en bande, un jeu de rôle où il est question de buter les loups-garous qui tuent les pauvres villageois. Au Mille et Une Nuits, on refait le monde à notre manière. On y parle de la vie, de nos galères à trouver du taf, du conflit israélo-palestinien, de la rivalité Maroc-Algérie, de François Hollande et du dernier burger halal au Quick, bref, de tout et de rien. On en ressort souvent au petit matin, la tête bien enfumée, le goût altéré par la menthe alfaker de la chicha. Dans la foule compacte de la manif, je me faufile par curiosité jusqu'au cortège de têtes. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Emra a du mal à me suivre. Comme un bon élève, je répète les slogans qui flottent tout autour de moi. Hollande, si tu savais, ta réforme, Hollande, si tu savais, ta réforme, on se la met. J'ai beau chercher, à part Emra, je ne connais personne d'autre ici. Aucun visage ne m'est familier. D'habitude, quand je viens jusqu'au centre-ville de Grenoble avec mes potes, on ne se sent pas spécialement les bienvenus. La police nous mate de haut en bas, comme des docteurs qui auscultent des patients malades. Mais cette fois, rien. Personne pour me dégager d'ici. Personne pour me dire de rentrer chez moi, à Échirolles, une petite ville de banlieue, à 5 km au sud en sortant de la ville. Non. Aujourd'hui, c'est même moi qui contribue à bloquer l'espace public, à revendiquer cet espace, à me l'approprier. C'est comme ce slogan que tout le monde chante « Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous !» Tout autour de moi, la foule gronde de plus en plus fort contre la loi travail. À la télé, des membres du gouvernement continuent de défendre ce projet de loi envers et contre tout, dans une nouvelle langue qui n'appartient qu'à eux. Ils veulent nous convaincre que leur loi est nécessaire parce que, d'après eux, le marché du travail souffre de trop de réglementations et qu'il en faut beaucoup moins pour favoriser la création d'emplois. En réalité, leur loi vise à casser les droits des travailleurs. Cette loi veut faciliter les licenciements comme si nos emplois n'étaient pas déjà assez précaires. Alors me voilà, à 17 ans, dans la rue, contre Hollande, El Khomri et toute la bande. Au loin, c'est la première fois que je vois ces énormes ballons de la CGT et des pancartes qui se déploient un peu partout. Avant de venir, moi aussi, j'ai préparé la mienne dans la petite chambre que j'occupe depuis quelque temps. J'ai tendu un drap blanc et j'y ai inscrit une phrase du rappeur Médine à la bombe. Qui a déclenché le plan Vigiprimate, ce racisme primaire qui nous transforme en vigile de Primarque? Je sais que ce n'est pas une manif contre le racisme, mais d'instinct, c'est cette phrase qui m'est venue en premier. J'ai l'impression que ma pancarte fait un peu tache au milieu des autres. Cette citation de Médine, comment dire, personne ne la remarque. Mais pour moi, cette pancarte, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire la situation dans laquelle on se trouve en France un an après l'attentat contre Charlie Hebdo. La suspicion généralisée envers les musulmans, les perquisitions administratives, les regards méfiants, les reportages à charge, le lexique guerrier à l'endroit des quartiers populaires. Toute la journée, à la télévision, on parle des territoires perdus de la République, qui sont en réalité des territoires délaissés de la République. Mais cette pancarte et cette citation de Médine, ça dit surtout ma condition à ce moment-là. Je m'appelle Taha, j'ai 18 ans, dans un mois, et je viens d'un quartier populaire. Je suis née en Algérie, arrivée à Échirolles à l'âge de 4-5 ans. Une ville de 35 000 habitants à peine, communiste depuis l'après-guerre. Une ZUP, zone urbaine prioritaire, mais qui est aussi une ZEP, zone d'éducation prioritaire, et une ZSP, zone de sécurité prioritaire, depuis 2012. les 3 Z, la totale. Au départ, ma famille s'installe au 9e étage d'une tour qui en compte 15. À l'époque, mon père est ouvrier dans l'électronique et ma mère ne travaille pas. De toute façon, son voile joue contre elle en France et trouver un boulot relève presque de l'impossible. Pourtant, en Algérie, elle était professeure de physique, après avoir obtenu sa licence en mécanique des fluides. À la maison, notre foyer est stable. On est pauvre, certes, mais on a la chance d'avoir des parents avec un certain capital culturel. Même s'ils sont pauvres, mes parents ont la volonté de nous élever socialement. Ils insistent pour que ma sœur jumelle et moi allions à la bibliothèque. Ils suivent assidûment nos résultats scolaires. Bref, des parents aimants et soucieux de notre avenir. Mais à l'extérieur, c'est le chaos. Il y a de la violence partout dans le quartier. Combien de morts pour des bagarres qui dégénèrent ou des embrouilles de gamins ? Kevin, Sofiane et Greg à Échirol, Luc à Saint-Martin-d'Air et tous les autres. Au collège, il y a aussi beaucoup de violence. Il y a tellement de bagarres que je suis vraiment persuadée que tout au long de nos vies, on sera condamné à ça, à se battre physiquement, à prendre des coups, à en donner. Pourtant, je n'aime pas cette violence. Je la rejette totalement, mais je n'ai pas le choix. Si je me fais marcher dessus, c'est fini. Et puis, un autre type de violence nous ronge à Échirol, comme dans tant d'autres quartiers, celle de la police. À 12 ans, je me fais gifler par un CRS. On se baladait à Grenoble le jour de l'Aïd, 15 euros en poche. On voulait aller au kebab et au cinéma pâté, mais des policiers nous sont tombés dessus. Contrôle de routine. À 12 ans, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On nous dit de nous coller contre un mur, face contre la pierre. Je refuse. Un policier me gifle et me crache cette phrase qui résonne encore en moi. « Toi, tu t'es pas assez pris de claques dans ta vie. » Voilà, ça c'est un de mes premiers contacts avec l'État. Côté école, l'horizon est barré d'une croix rouge depuis la ligne de départ. C'est comme un tunnel sans fin. Vous roulez des heures et au bout du chemin, il y a encore un immense trou noir. Mon futur, je n'en vois pas vraiment. L'espoir, noir c'est noir, comme dirait l'autre. On me dit qu'au mieux, je pourrais devenir fonctionnaire de catégorie C aux espaces verts de la mairie. Mais je crois que ce n'est pas la vie dont je rêve. D'ailleurs, je ne sais même pas quels sont mes rêves. Normalement, les jeunes de notre âge, ils en ont, je crois. Des trucs du genre devenir ingénieur ou marcher sur la lune. Nous, à Échirol, on a vite compris que les rêves, c'était pour les autres et que de toute façon, ils ne se réalisent jamais dans la vraie vie. Du coup, on a arrêté d'y croire. Jusqu'ici, tout va mal. Dès le début, tout me semble déjà joué et si tout se passe bien, je pourrais peut-être gagner le SMIC. C'est comme ça quand tu viens d'Échirol. T'auras beau être le plus ingénieux, le plus malin, t'auras peu de chances de te sortir de là. C'est comme à Fort Boyard, quand les candidats crient à leurs camarades « Sors, sors !» mais que la porte est déjà bloquée. C'est comme ça, ici. On a beau te crier « Sors, sors !» tu n'as nulle part où aller. Il n'y a aucun lieu de possible. À moins que ce lieu, ce soit cette toute première manifestation de ma vie, aujourd'hui, place de Verdun. Au fil de la marche, la manif m'apparaît tout doucement comme un lieu sûr, mon endroit. Y a-t-il quelque chose d'autre qui compte à 18 ans sinon trouver sa place ? Pas vraiment. Et jusqu'ici, on ne peut pas dire que j'ai trouvé la mienne. Certes, l'école n'a pas été un très grand succès, mais quand j'allume la télévision ou la radio, j'ai l'impression que moi, les miens, puis tous ceux qui vivent dans les mêmes quartiers que nous, sommes en permanence désignés comme des dangers pour la nation. Depuis un peu plus d'un an, tout s'est accentué avec l'attentat contre Charlie Hebdo. Un vrai point de bascule. J'ai l'impression que nous ne sommes même plus en danger, des dangers, mais carrément des ennemis. Quand on va à la mosquée du quartier, des policiers nous regardent du coin de l'œil. On nous fait comprendre que c'est mal d'être ce que l'on est. Et puis, combien de familles perquisitionnées autour de chez nous ? Combien d'assignés à résidence depuis janvier 2015 ? Toute la journée, les chaînes de télé tournent en boucle avec les mêmes mots. Islam, islamisme, musulmans, terrorisme. On entend parler de déchéance de nationalité. On entend les propos du Premier ministre, Manuel Valls. Marianne, elle a le sein nu. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. Je comprends que quelque chose ne va pas bien en France. Parce que ma mère est voilée et qu'elle n'a pas le sein nu. Parce que moi-même, je suis un jeune musulman. Je comprends que pour trouver cette place, cette fameuse place, celle qui nous est si chère à 18 ans, il faudra se battre, mener un long et insistant combat. Alors, quoi de mieux que la rue pour lancer les hostilités ? La manifestation évolue vers le centre-ville de Grenoble. Je suis désormais en tête de cortège, à l'aise, comme à la maison. Et après ? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout et que la manif est finie ? On devra rentrer et attendre la prochaine, c'est ça ? Moi, je ne veux plus quitter la rue. Ma colère est là désormais. Après toutes ces années de galère, elle a enfin trouvé sa place. Plus tard, j'apprendrai que chaque génération de militants naît avec un mouvement social. En 1968, celles et ceux que la presse appelle les 68ards. En 1986, la génération contre la loi de Vaquet. En 1995, contre la loi Juppé. En 2005, les révoltes après la mort de Zied et Bouna à Clichy-sous-Bois et le mouvement anti-CPE. Et pour moi, c'est maintenant, c'est 2016, c'est ce gouvernement socialiste qui mène une politique antisociale, c'est Myriam El Khomri et sa loi qui casse les droits des travailleurs et les précarise, c'est François Hollande et ses promesses en l'air, c'est Manuel Valls et son sens de la division, du racisme. À chaque fois que l'on tombe dans un de ces discours à la chicha, Valls semble nous cracher dessus. Le pire, c'est que l'on sait que chacun de ces mots a un impact direct sur nos vies. En 2012, il était venu à Échirolles avec François Hollande. Après la mort de Kevin et Sofiane, le 28 septembre 2012, ils avaient été lynchés et poignardés par des gars d'un quartier voisin. Au lieu d'investir dans la culture et l'éducation, il avait décidé de placer notre quartier en ZSP, zone de sécurité prioritaire. Résultat, plus de contrôle, plus de répression. Le quartier qui se referme sur nous. Alors voilà, j'y suis. Je brandis ma pancarte et je crie dans la rue. Je regarde tous ceux qui sont autour de moi et j'ai l'impression qu'on appartient désormais à un seul et même groupe. C'est bien la première fois que je me sens pas seule. Que je ne me sens pas seule. Nous sommes pleins. Nous sommes ceux qui nous opposons. Ceux qui disent non. Et quelque chose est en train de naître à l'intérieur de moi. L'engagement.
L'engagement, oui. Donc ce jour-là, l'engagement naît. Mais il n'est pas encore organisé. Il va finalement se mettre en place dans l'esprit de Taha Bouhafs et surtout dans les faits, dans ses actions, avec la continuation des actions autour de lui, puisque en avril 2016 commence la Nuit debout. Et donc, il nous rend compte de cette expérience et du maintien, disons, de son engagement et de l'organisation de son engagement. Donc, écoutons ce qu'il vit d'abord sur le parvis de la Maison de la Culture à Grenoble en avril 2016. Cette fois, la manifestation ne s'arrête pas devant la préfecture. Elle continue jusqu'à la Maison de la Culture. « On va faire nuit debout, là », me dit un gars. Ben oui, un gars, c'est les rencontres. Les copains qui ne parlent plus de choses et d'autres, mais qui parlent des revendications. Une sorte de campement s'est naturellement installé sur les marges de la Maison de la Culture. Il y a de tout. Des enseignants, des militants, des sociologues, des philosophes, des tas de gens que je n'ai pas l'occasion de rencontrer dans ma vie. Et tout de suite, on me propose de participer à un groupe de parole qui vient de s'organiser. J'entends certains mots pour la première fois de ma vie. Auto-organisation, féminisme, impérialisme, marxisme. Marx, c'est qui celui-là ? Le lendemain, je reviens, toujours intriguée par ces sit-ins sur les marges de la Maison de la Culture, la MC2. J'essaye d'évoluer dans les différents espaces qui se forment, d'écouter les uns et les autres. Mais ces gens sont tous un peu dans leur bulle. J'ai l'impression d'être là comme un intrus. Est-ce qu'ils me voient ? Est-ce qu'ils m'entendent ? Est-ce qu'ils se soucient de ce que je porte comme parole ? J'ai envie de m'asseoir au milieu de chaque groupe et de demander Est-ce que, pour une fois, ma voix, nos voix, celles des quartiers, pourraient compter ? Alors, groupe, je finis par créer le mien, puisque personne n'a l'air de se préoccuper de ce que je dis vraiment. Mon groupe s'appelle simplement Quartier Populaire. Et il y en a des quartiers populaires qui viennent me rejoindre et m'écouter. J'explique d'où je viens, je les éduque à mon tour. Je leur dis mon rapport à l'État, à l'islamophobie quotidienne, aux violences policières. Et tout cela, entre nous, on s'écoute, on se pose des questions, on se répond. Et je découvre un nouveau terrain, la parole. J'avais toujours eu le sentiment que la parole ne m'appartenait pas, qu'elle m'avait été confisquée à la naissance ou presque, et qu'elle était réservée aux autres, aux élites. Mais au fil des groupes de parole, les discours commencent à se poser, à s'articuler. Mon discours, celui d'un gamin de 18 ans, c'est mon vécu. Et c'est ça qui constitue ma parole. Ce sont mes expériences de la police, de la discrimination, de la violence sociale qui constituent ma parole. Je n'ai peut-être pas encore les bons mots, mais j'ai un vécu. Et pour la première fois, il y a des gens qui m'écoutent le raconter, ce vécu. Alors, durant 2 mois, Nuit Debout devient mon école, l'espace où j'apprends et où je dis. Je m'initie à des notions politiques, à des notions économiques que l'école, celle de la République, aurait dû m'inculquer. J'apprends sur le libéralisme, le communisme, l'anarchisme. Et j'apprends sur l'économie, la langue, le social, l'histoire, la philosophie. C'est une sorte de Sciences Po de la rue. Quand on n'est pas sur les marches de la MC2, jour et nuit, on passe à l'action. Opération de péage gratuit, rencontre avec des collectifs. On va soutenir des grévistes un peu partout dans la région. On continue de se battre contre la loi travail et l'espoir n'est plus très loin. On commence même à y croire. Et si le gouvernement faisait marche arrière ? Et si Nuit Debout arrivait à gagner la bataille ? Eh oui, si on gagnait. Mais non. Et non, coup d'arrêt, la loi passera, quoi qu'il arrive. Article 49.3, discours, je retourne à Échirolle comme on retourne à la case départ. Donc, on va s'arrêter là pour un tout petit moment, faire une pause de musique. Et après, on en viendra à la dernière étape de l'engagement, l'engagement véritablement politique de Taha Bouhafs.
J'ai l'impression que nous ne sommes plus des dangers, mais carrément des ennemis. Quand on va à la mosquée du quartier, des policiers nous regardent du coin de l'œil. On nous fait comprendre que c'est mal d'être ce que l'on est. Et puis, combien de familles perquisitionnées autour de chez nous ? Combien d'assignés à résidence depuis janvier 2015 ? Toute la journée, les chaînes de télé tournent en boucle avec les mêmes mots. Islam, islamisme, musulman, terrorisme. On entend parler de déchéance de nationalité. On entend les propos du Premier ministre Manuel Valls. Marianne, elle a le sein nu. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. Je comprends que quelque chose ne va pas bien en France. Parce que ma mère est voilée, et qu'elle n'a pas le sein nu. Parce que moi-même, je suis un jeune musulman. Je comprends que pour trouver cette place, cette fameuse place, celle qui nous est si chère à 18 ans, il faudra se battre, mener un long et insistant combat. Alors, quoi de mieux que la rue pour lancer les hostilités ? La manifestation évolue vers le centre-ville de Grenoble. Je suis désormais en tête de cortège, à l'aise, comme à la maison. Et après ? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout et que la manif est finie ? On devra rentrer et attendre la prochaine, c'est ça ? Moi, je ne veux plus quitter la rue. Ma colère est là désormais. Après toutes ces années de galère, elle a enfin trouvé sa place. Plus tard, j'apprendrai que chaque génération de militants naît avec un mouvement social. En 1968, celles et ceux que la presse appelle les 68ards. En 1986, la génération contre la loi de Vaquet. En 1995, contre la loi Juppé. En 2005, les révoltes après la mort de Ziad et Bouna à Clichy-sous-Bois et le mouvement anti-CPE. Et pour moi, c'est maintenant, C'est 2016. C'est ce gouvernement socialiste qui mène une politique antisociale. C'est Myriam El Khomri et sa loi qui casse les droits des travailleurs et les précarise. C'est François Hollande et ses promesses en l'air. C'est Manuel Valls et son sens de la division, du racisme. À chaque fois que l'on tombe sur un de ces discours à la chicha, Valls semble nous cracher dessus. Le pire, c'est que l'on sait que chacun de ces mots a un impact direct sur nos vies. En 2012, il était venu à Échirolles avec François Hollande après la mort de Kevin et Sofiane. Le 28 septembre 2012, ils avaient été lynchés et poignardés par des gars du quartier voisin. Au lieu d'investir dans la culture et l'éducation, il avait décidé de placer notre quartier en ZSP, zone de sécurité prioritaire. Résultat, plus de contrôle, plus de répression. Le quartier qui se referme sur nous. Alors voilà, j'y suis. Je brandis ma pancarte et je crie dans la rue. Je regarde tous ceux qui sont autour de moi et j'ai l'impression qu'on appartient désormais à un seul et même groupe. C'est bien la première fois que je ne me sens pas seule. Nous sommes pleins. Nous sommes ceux qui nous opposons, ceux qui disent non. En quelque sorte, est en train de naître à l'intérieur de moi l'engagement.
L'engagement, oui. Donc, première action, première manif. Et ensuite, deuxième étape, l'engagement va commencer à s'organiser. Les rencontres avec ceux qu'on a rencontrés en manif, ceux que tu as rencontrés en manif, vont faire que précisément, les choses vont se mettre en place à la fois dans sa tête et dans les faits. L'engagement s'organise puisque autour de lui, la nuit debout s'organise. Donc ça, c'est le deuxième témoignage sur le parvis de la Maison de la Culture, la MC2 de Grenoble, avril 2016. La manifestation ne s'arrête pas devant la préfecture. Elle continue jusqu'à la Maison de la Culture. On va faire nuit debout là, me dit un gars. Une sorte de campement s'est naturellement installé sur les marches de la MC2. Il y a de tout, des enseignants, des militants, des sociologues, des philosophes, des tas de gens que je n'ai pas l'occasion de rencontrer dans ma vie. Tout de suite, on me propose de participer à un groupe de parole qui vient de s'organiser. J'entends des mots pour la première fois de ma vie. Certains mots comme auto-organisation, féminisme, impérialisme, marxisme. Marx, c'est qui celui-là ? Le lendemain, je reviens, toujours intriguée par ces sit-ins sur les marches de la MC2. J'essaye d'évoluer dans les différents espaces qui se forment, d'écouter les groupes, d'écouter les uns et les autres. Mais finalement, ces gens sont tous un peu dans une bulle. J'ai l'impression d'être là comme un intrus. Est-ce qu'ils me voient ? Est-ce qu'ils m'entendent ? Est-ce qu'ils se soucient de ce que moi je porte comme parole ? J'ai envie de m'asseoir au milieu de chaque groupe et de demander « Est-ce que là, maintenant, pour une fois, ma voix peut compter ?» Alors, puisqu'il s'agit de groupe, je finis par créer le mien. Mon groupe s'appelle simplement « Quartier populaire ». Ils sont quelques-uns à me rejoindre, à m'écouter. Tous ensemble, nous expliquons d'où nous venons. Et moi, je les éduque à mon tour. Je leur dis mon rapport à l'État, à l'islamophobie quotidienne, aux violences policières. Eh oui, on s'écoute, on se pose des questions, on se répond. Je découvre un nouveau terrain, la parole. J'avais toujours eu le sentiment que la parole ne m'appartenait pas, qu'elle m'avait été confisquée presque à la naissance, ou plutôt qu'elle était réservée aux autres, aux élites. Et là, au fil des groupes de parole, mon discours commence à se poser et à s'articuler. Bien sûr, je suis encore un gamin de 18 ans, mais c'est mon vécu qui constitue ma parole. Ce sont mes expériences de la police, de la discrimination, de la violence sociale qui constituent ma parole. Je n'ai peut-être pas encore les bons mots, mais j'ai un vécu et pour la première fois, il y a des gens qui m'écoutent raconter ce vécu. Durant 2 mois, Nuit debout devient mon école, l'espace où j'apprends et où je dis. Je m'initie à des notions de politique, d'économie, que l'école, pourtant celle de la République, ne m'avait pas données. Le libéralisme, le communisme, l'anarchisme, nous apprenons tout et tout est là. L'économie, la langue, le social, l'histoire, la philosophie. C'est une sorte de Sciences Po de la rue. Et quand on n'est pas sur les marges de la MC2, eh bien, jour et nuit, on passe à l'action. Opération de péage gratuit, rencontre avec des collectifs. On va soutenir des grévistes un peu partout dans la région. On continue de se battre contre la loi travail et même l'espoir n'est plus très loin, on commence à y croire. Si le gouvernement faisait marche arrière, si Nuit Debout arrivait au bout de cette bataille, si on gagnait. Et puis, ben non, la loi passera, quoi qu'il arrive. Manuel Valls a recours au 49-3 et moi, je retourne à Échirolles, comme on retourne à la case départ. C'était donc la deuxième étape, Nuit Debout. La troisième, avec dans ce livre donc de, disons, d'apport biographique, toujours illustré de citations d'Emmanuel Macron, la troisième étape, ça va être peu à peu la véritable étape politique. Donc la citation d'Emmanuel Macron, c'est encore avant qu'il soit président, en 2016, à Lunel, dans l'Hérault, il dit à des militants de la CGT, vous n'allez pas me faire peur hein, avec votre t-shirt. Et la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Donc, à nouveau, il y a un renvoi de Taha Bouafs à ces citations d'Emmanuel Macron et à la mobilisation qui répond au mépris de ce qui est encore un opposant et ce qui va être très vite le président. Peu à peu, la politisation, l'engagement politique dont on vient de parler va se constituer pour Taha Bouafs et il va se constituer, par exemple, avec le combat autour des comités Adama Traoré. En fait, il y a la marche pour l'égalité et contre le racisme.
La marche pour l'égalité et contre le racisme, une marche comme un tournant dans l'histoire des quartiers populaires. Et cette histoire, où était-elle ? Disparue. Quand on me la raconte, les choses s'éclaircissent. C'est comme un dessin pour enfants où on doit relier des nombres entre eux. Je relis ces histoires que me racontent les camarades du Front Uni à ce que je sais de l'histoire de mes grands-parents combattants pour l'indépendance de l'Algérie. Et cette histoire coloniale à notre situation dans les quartiers populaires. Je comprends que la mort d'Adama Traoré lors de son arrestation par des gendarmes, c'est en fait la suite de cette histoire. Depuis ce local, je me sens libérée de ma propre colère. Je sens qu'elle n'est plus dirigée contre moi-même, comme ça a pu être parfois le cas, ni contre les miens. Désormais, ma colère est dirigée contre un système qui a été pensé et réfléchi, organisé. Un système qui te rappelle sans cesse « T'es en France, mais tu t'appelleras toujours Taha Bouafs ». Un système qui protège la police quand bien même les jeunes hommes qui sont perçus comme arabes, maghrébins ou noirs ont une possibilité 20 fois plus élevée d'être contrôlés que les autres. Un système qui te discrimine dans l'accès au logement, au travail, à l'éducation, à tout ce qui fait la vie d'un citoyen normal. Mais j'ai bien compris aussi que la colère ne suffisait pas. Il fallait l'en transformer maintenant, la mettre au service des luttes collectives.
Donc, pour Taha Bouafs, la lutte avec les comités Adama Traoré s'organise et surtout va déboucher très rapidement sur l'engagement politique. Grâce aux rencontres dans les comités, il va véritablement orienter son engagement. Mais avant de découvrir cette organisation politique de l'engagement, on va prendre quelques minutes de pause musicale.
L'homme qui répare les femmes. Un homme sur 100 est un leader. Les 99 autres suivent une femme.
Je suis comme une fleur qu'on a écrasée. Mais je vais repousser, me déployer, résister.
J'ai vu ce qu'un œil de chirurgien ne peut s'habituer à voir. L'entrejambe déchiquetée d'une fille de 18 mois. L'urine et la selle, passer par le même canal. Je pourrais pas mimer la scène en pensant à celle qui a mal. Viol son mineur pour plus de ressources minières. C'est la RDC Congo, une bijouterie à ciel ouvert. La pluie tombe sur la tôle et donne un bruit de cymbales. Ici on m'appelle l'homme qui répare les femmes. L'homme qui répare les femmes.
Un homme sur 100 est un leader. Les 99 autres suivent une femme.
Des gosses en uniforme dans une camionnette bâchée s'enivrent en reniflant des vapeurs d'essence maltraitées. Simplifient leur commerce en déclarant des guerres. Cherchent la prospérité en déflorant des vierges. Armés de puits, ils finissent leur besogne à l'ustensile et laissent repartir au village la jeune fille ostensible. Le but étant d'effrayer pour créer l'exode. D'avoir la main mise sur les diamants et contrôler l'or. À l'hôpital, mes patientes s'appellent des victimes. Chirurgien réparateur de leurs parties intimes. Je soigne le sexe faible du mal fait par les mâles. Ici les hommes m'appellent l'homme qui restaure nos femmes.
L'homme qui répare les femmes. Un homme sur 100 est un leader. Les 99 au-dessus d'une femme.
Je suis comme une fleur qu'on a écrasée. Mais je vais repousser, me déployer, résister.
Après le service un soir, je suis tombé dans les griffes d'une ruse. J'ai senti dans mon cou l'acier froid d'une arme russe. Ma voix entendue à l'ONU a dû les ébouillanter. À la buvette de l'assemblée est tombé l'ordre de me tuer. Tout un commando pour moi d'une demi-dizaine de lâches avait ligoté ma famille et pris la place de mes gardes. Sauvé par une sentinelle qui y laissera la vie, en devenant le bouclier de l'homme qui répare les filles.
L'homme qui répare les femmes. Un homme sur 100 est un leader. Les 99 au-dessus d'une femme.
Je suis l'homme en bout de chaîne qui récupère les corps des fées. Tous ces bouts de chair qu'on jette à cause d'une culture codifiée. Je n'ai pas de bâton de pèlerin, rien qu'un bistouri. J'opère des femmes qui parfois me racontent leurs historiques. Peu bavardes, c'est ça la contraception orale. Administrée par une société patriarcale. Les multinationales déstabilisent la zone. Y'a bien du sang sur les bijoux qu'on achète place Vendôme. Qui profanent les femmes en même temps que les sous-sols du Congo. Ceux qui récoltent le coltan pour faire fonctionner nos smartphones. Qui détruisent leur matrice, qui impulsissent les maîtrises. Qui parlent, violent les méprises, en fait une arme de destruction massive. Écoute le blues de l'homme en blues.
À nos mères oubliées, à nos sœurs oubliées, à nos mères oubliées, à nos sœurs oubliées, à nos mères oubliées, à nos sœurs oubliées, à nos mères oubliées,
à nos sœurs
des jeunes passent bien souvent par le rap, par la musique, par ces musiques qui se transmettent entre eux par les réseaux sociaux. À Grenoble, les idées se transmettent aussi au local du Parti de gauche à Saint-Bruno, un quartier mélangé, disons, de Grenoble. Et à l'intérieur du local, il y a des groupes de jeunes qui discutent et qui souvent discutent de leurs problèmes personnels. Évidemment, c'est plus le bar à chicha, c'est le local du parti de gauche. Donc, bien sûr, les paroles sont plus politiques. Écoutons à nouveau Tara. Les copains, souvent, ils parlent d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Mon père a voté pour lui en 2012. Il dit que c'est le seul qui parle pour nous, nous, les exclus. Moi, depuis que je le vois à la télévision, là maintenant presque tous les jours, c'est devenu un personnage familier que j'aime bien, avec sa grande gueule et son côté irrévérencieux. Et puis, il a appelé son mouvement « La France insoumise ». Ça claque, non ? Et son programme aussi me plaît. Alors, au local du Parti de gauche à Saint-Bruno, il y a des jeunes insoumis et je les écoute. Ils me parlent des propositions phares de la France insoumise. L'augmentation du SMIC et des salaires, l'abrogation de la loi El Khomri, la suppression de la BAC. Ah bah oui, la BAC, alors ça oui. Parce que, d'aussi loin que je m'en souvienne, la BAC, elle est liée à des souvenirs d'humiliation et de violence. Un été, au quartier, on s'était cotisé pour acheter une piscine gonflable à Carrefour. On l'a gonflée, on l'a remplie, on l'a déposée sur un coin parking. Enfin, déposée d'abord, remplie après. Et on a posé nos serviettes autour, sur le béton brûlant. On s'imaginait au bord de la mer, à défaut de pouvoir y être pour de vrai. On faisait avec les moyens du bord, sans rien demander à personne et sans faire de mal à personne. Mais les policiers de la BAC, eux, sont arrivés, ils ont crevé la piscine. Sans raison, comme ça, gratuitement. La piscine s'est vidée d'un coup. L'eau a inondé le parking, elle s'est dispersée jusqu'aux égouts. Il ne restait plus que la carcasse de plastique agonisante. Et visiblement, les baqueux, ce jour-là, bah, ils étaient contents de foutre la merde. Alors forcément, on a protesté. Et on a... On a râlé, quoi. Eux, ils ont commencé à nous asperger de gaz lacrymogène, à nous poursuivre. C'était un jeu. Alors... leur manière de passer le temps, voilà ce que c'est pour moi, la BAC. Des agents du chaos. Donc forcément, quand Mélenchon propose de supprimer la BAC, ah bah oui, il gagne un bon point chez les jeunes militants qu'on est, le jeune militant que je suis. Et voilà, je trouve peu à peu mes activités et surtout ma tâche des mois à venir, militer pour défendre les intérêts des jeunes comme moi à la prochaine élection présidentielle. En plus de trouver un but, un objectif, cela me permet d'apercevoir un nouvel horizon pour les gars comme moi. Un horizon moins dur, plus juste. Comme on disait tout à l'heure, les jours heureux. Bon, je sais que ça va être dur, je sais qu'il va falloir un bon mental. Ça demande de la rigueur d'être militant. Mais les copains et les jeunes insoumis, leur énergie, leur enthousiasme me donnent l'impression que si on se bat ensemble, tout devient possible. Finalement, je comprends que militer offre la plus belle des choses, dire « nous ». Jusqu'ici, j'ai avancé seule, que ce soit à l'école ou même en manif. Mais maintenant, je peux dire « nous ». Je peux dire « notre candidat », »,« notre programme », »,« nos idées », »,« notre mouvement ». Le 5 février 2017, je vais à la gare de Grenoble pour une bonne raison, pas pour y traîner, non, pour prendre un train direction Lyon. Je dois être à 9h sur place pour filer un coup de main pour le premier grand meeting de la France insoumise auquel je participe. Au meeting, dans la salle, c'est la ferveur. La foule crie « Résistance !» Quand on monte sur scène, j'ai l'impression d'entrer dans un stade. Les lumières nous aveuglent, les militants sont survoltés, ça crie, ça chante. Et je me retrouve sur l'estrade, juste derrière Jean-Luc Mélenchon. Le meeting commence, on ne m'a pas prévenu, mais on m'a installé tout près des enceintes et je n'entends absolument rien. Donc je me contente d'applaudir quand le public applaudit. Et dans ma poche, mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Tous les copains qui m'ont vu sur les reportages, tous les copains qui m'ont vu à la télé... et mon père aussi. Alors je me demande ce que ça va lui faire de me voir là, dans les gradins d'un meeting politique. Il va sûrement avoir un sentiment de fierté. Lui qui s'est toujours débattu avec la politique, fils et petit-fils de résistants algériens. Voilà. Quand on se retrouve à la fin, dans les coulisses du meeting, Jean-Luc Mélenchon s'approche de moi. On discute un instant, il me pose des questions. D'où je viens? Qu'est-ce que je fais? Et quand il me parle, il place quelques mots en argot marocain. C'est drôle. Il est curieux, détendu, il est chaleureux. Et il finit par me taper une accolade avant de partir. Voilà, sur le chemin du retour vers Grenoble, je suis rassurée. Ce candidat fait sens. Je ne m'étais pas trompée. C'est ça mon engagement. Donc, avec ce témoignage, en effet, l'engagement politique s'est mis en place. Et cet engagement politique, il va se matérialiser dans la campagne présidentielle, bien sûr, et dans le fait que Macron, lui, enfin Emmanuel Macron, continue que les idées et les projets d'Emmanuel Macron vont s'opposer peu à peu à ce que Tahar Ouafz nous a désigné comme étant son programme et son engagement. Donc, il nous précise ce programme et cet engagement au fur et à mesure.
À vrai dire, j'y pense depuis quelques semaines, mais c'est un certain Alain, professeur de sociologie à l'université Grenoble-Alpes, rencontré à la MJC, qui m'a convaincue. Et si t'y allais ? Pourquoi pas ? Si on m'avait dit l'année dernière que ma vie prendrait ce tournant, je n'y aurais pas cru une seconde. Encore moins de me retrouver là, au milieu des mille et une nuits, à annoncer aux copains le lancement de ma campagne législative.
Oui, puisque en fait, Emmanuel Macron a été élu président. Et donc, dans la foulée, c'est Tahar Ouafz qui a été contacté par LFI pour être candidat de sa circonscription.
Je vais avoir besoin de vous. Il m'a fallu un peu de temps d'adaptation pour parler comme les vrais hommes politiques. Lol. Pour le moment, les deux candidats à l'investiture dans la circonscription sont l'un étudiant à Sciences Po et l'autre maire adjoint. Voir débarquer le petit rebeu des Chirolles au milieu de tout ça, ce n'est peut-être pas ce qu'ils envisageaient. Depuis que j'ai pris cette décision, je passe mon temps sur Internet. Comment fonctionne l'Assemblée nationale ? Quel est le rôle d'un député ? Je me perds sur YouTube. Je me retrouve carrément à regarder des vidéos sur la vie de Danton. Je comprends que si j'y arrive, je serai un symbole fort. Ça pourrait peut-être enfin changer la façon dont les jeunes de banlieue comme moi sont perçus. Les luttes auxquelles j'ai participé n'ont pas abouti jusqu'ici. La campagne présidentielle s'est achevée par une défaite. On n'a même pas atteint le second tour. Cette fois, il va falloir se remettre en ordre de bataille et y aller à fond. Je rameute tous les gens du quartier, les parents, les grands frères, les adolescents. Je comprends qu'ils aimeraient y croire, mais que quelque chose est cassé. La chose politique ne leur parle plus. L'Assemblée nationale, une institution de plus qui ne les représente absolument pas. Je leur dis, il faut qu'on existe dans ces lieux de la démocratie, ils sont aussi à nous. On me répond, si on fait campagne pour toi, on pense plutôt que ça pourrait te desservir. C'est dur à entendre. C'est dur à entendre parce que c'est vrai. Des blancs qui discutent politique dans un café, c'est une réunion publique. Mais 10 rebeux qui font la même chose dans une chicha, c'est perçu comme du communautarisme. Heureusement, Amine et Alain sont avec moi et ils y croient. Quelques camarades du parti aussi. Je finis par être désigné à l'unanimité comme candidat par l'Assemblée de circonscription. Quelques jours plus tard, le comité électoral de la France insoumise valide ma candidature et j'en suis assez fier. Pour ma ville, pour mon quartier. Pour ce que ça raconte de notre époque, un jeune Français, arabe, de 19 ans à l'Assemblée. Ma tronche et celle de ma suppléante, Valérie, s'affichent dans toute la ville, dans toute ma cité. Devant mon ancienne école, où tous mes profs me regardent avec fierté ou ironie. J'attends que la France découvre qu'un quartier populaire, quand il se mobilise, il peut finir à l'Assemblée nationale. J'attends de pouvoir enfin crier toute notre colère depuis les rangs du Palais Bourbon. Mais finalement, il me manquera 515 voix pour accéder au second tour.
Voilà, Tahar Ouafz n'est pas élu en 2017, il n'est pas élu député et le combat continue dans sa région et le combat continue dans l'intégralité de la France, bien sûr. En juin 2017, Emmanuel Macron continue aussi avec ses petites phrases assassines. Dans un déplacement, il s'adresse aux Bretons, comme l'avait fait d'ailleurs Sarkozy quelques années avant, et il parle avec une ironie sévère de la pêche qui est en décrépitude, mais il parle surtout, avec une ironie totalement injustifiée, des bateaux d'immigrés. Vous savez, ces bateaux d'immigrés comoriens qu'on a évoqués dans un de nos livres précédents, quand on a lu « Tropique de la violence », on a vu qu'il y avait aux Comores des bateaux qui essayaient de gagner Mayotte pour gagner un petit peu de cette « sécurité » entre guillemets française qui existe, mais qui n'existe plus à Mayotte. Alors, en Bretagne, Emmanuel Macron, on l'a peut-être oublié, mais il avait dit aux pêcheurs bretons, en rigolant, « Ah ah, aux Comores, ben non, les Comoriens, les Quamois, les Quassa-Quassa, ils pêchent pas beaucoup, ils ramènent que des Comoriens dans leur filet. » Bon, je sais pas, moi, ça, je l'avais complètement oublié. Je l'ai retrouvé, là, dans le livre de Tahab Ouafs. Je dois dire que l'ironie sur les gens qui meurent en essayant de gagner les côtes de Mayotte, c'était tellement stupide et tellement violent que peut-être ça n'avait pas été repris par les médias, je ne me souviens pas vraiment. En tout cas, pour Tahab Ouafs, l'engagement continue et il revient participer à des manifestations, participer à des mouvements, par exemple à Paris. Il nous parle de sa manifestation parisienne de la Bastille à la République le 23 septembre 2017.
Paris, c'est le rêve du gosse de province. C'est la ville du possible, au bout de la ligne de train. C'est les images de la télévision en vrai. Les lignes de métro qui se chevauchent et la vie anonyme au milieu des passants. Pour moi, c'est les mobilisations massives, comme aujourd'hui, où depuis le sous-sol du métro, on entend déjà l'habituel « on lâche rien, on lâche rien ». C'est la première manifestation anti-Macron depuis la rentrée. Je porte un t-shirt « Justice et vérité pour Adama », la casquette « Los Angeles », un survêtement Nike et une paire de Air Max 95. Je suis avec David Guiraud, un assistant parlementaire de la France Insoumise que j'ai rencontré pendant la campagne présidentielle. On n'est pas encore potes, mais le courant passe bien. Dans ses meilleurs jours, David a l'allure d'un inspecteur de police, dans les pires, plutôt celle d'un agent de la BAC. En sortant du métro Bastille, ce sont de vrais policiers qui nous attendent. Je lance discrètement à David, on parie que c'est pour moi. Je ne m'étais pas trompée. Une fois à leur niveau, ils ne contrôlent que moi. Le policier prend ma carte d'identité, commence à la tordre et me demande très sérieusement, en voyant ma tête de gamin sur la carte, « T'es une fille ou un garçon ?» Le tutoiement, forcément. Puis, il me dit de vider mon sac par terre. Je refuse. « Tu viens d'où ?» Je réponds que je viens d'Échirolles, près de Grenoble. « Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, à Échirolles, mais ici, c'est nous qui faisons la loi. » David, témoin scandalisé, pâlit encore un peu plus, mais les policiers ne nous retiennent pas plus longtemps. Ils voulaient juste jouer les gros bras.
C'est donc la manif contre le coup d'État social d'Emmanuel Macron qui cherche à réduire les droits des travailleurs. Et cette manif donc continue à constituer le fond politique de Tahab Ouafs. Je vous lis. Ce qu'on a appelé le coup d'État social, c'est la réforme du Code du travail, plus connue sous le nom de loi travail XXL. Cette loi d'Emmanuel Macron vient achever le boulot entamé avec la loi El Khomri, une casse méthodique des droits des travailleurs. Et ce gars-là, Emmanuel Macron, poussé au pouvoir par les puissances de l'argent, ancien banquier d'affaires, compte bien suivre la marche en cours. Sa mission est simple. Faire passer des réformes qui contribueront à enrichir les plus riches et continuer à appauvrir les plus démunis. La loi travail XXL en est un parfait exemple. Et moi, je retourne aussi sur le banc de l'école. Je me suis inscrit à la fac de Grenoble pour préparer un diplôme d'accès aux études universitaires. Bon, évidemment, je m'étais arrêtée au BEP, c'était pas génial. Mais là, les semaines suivantes, je m'accroche encore aux dernières branches de la fac et en même temps, le mouvement étudiant contre Parcoursup me mobilise à fond. C'est assez ironique. Moi qui ai été malmenée par le système scolaire, je me bats pour que mes petits frères et mes petites sœurs du quartier puissent y avoir accès comme tout le monde. Je sais à quel point Parcoursup va créer des inégalités encore plus terribles à l'université. Et c'est cette bataille qui va précipiter ma rupture définitive avec le système scolaire. En fait, avec mes camarades étudiants, nous refusons le tri social à l'entrée de l'université. Nous réclamons aussi de meilleures conditions de vie pour les étudiants. Je me rends aux manifs et aux réunions, mais en fait, je laisse tomber les cours. Je file des coups de main à des camarades de la France insoumise qui sont aussi membres de l'UNEF. Au passage, donc, j'ai quitté l'école. Allez, adios. Les semaines passent, on est à 2018, et je remonte à Paris pour militer. Il y a la lutte des cheminots, la lutte des cheminots contre la réforme ferroviaire. Les cheminots, eux, ils se battent, notamment contre la suppression de leur statut et l'ouverture à la concurrence. Et depuis que je côtoie les manifestations et les mouvements de lutte, j'ai suivi leur combat avec intérêt. Ils n'ont pas peur de se mettre en grève, quitte à voir leur salaire fondre. Et dans le jargon syndical, on appelle ça un secteur combatif. La SNCF, ça fait longtemps qu'ils se battent, et ils se battent pour nous aussi. La réaction du petit bourgeois qui se plaint des cheminots qui nous prennent en otage avec leur grève, ça m'a toujours particulièrement agacée. En France, on a la chance d'avoir un réseau ferroviaire de qualité, des cheminots qui aiment leur métier, des travailleurs qualifiés avec un vrai savoir-faire technique. Les trains sont des lieux propres et sûrs. Et pourtant, les cheminots y sont dans le viseur des pouvoirs libéraux qui s'obstinent à vouloir casser leur statut et défoncer les acquis sociaux. Voilà, les cheminots, ils se rassemblent régulièrement, ils luttent. Et dans leur lutte, j'apprends à lutter aussi. Le fameux hymne des cheminots, il sera repris peu à peu par les gilets jaunes. Donc, c'est l'arrivée des mobilisations cheminots qui nous fait déboucher sur l'ensemble des manifestations qui, elles aussi, vont suivre celles des gilets jaunes. Au printemps 2018, donc, TAB ou AFS suit à la fois les revendications des secteurs des travailleurs, comme par exemple ceux des cheminots, et les revendications des étudiants. Ils participent au mouvement étudiant dans certaines facs, par exemple à Paris-Tolbiac, et écoutons son témoignage encore. Depuis quelques semaines, le mouvement étudiant explose. Le contexte est ultra-violent. Le mois dernier, la fac de Montpellier a été attaquée par un commando de fachos, aidé par un doyen et un professeur de cette même fac, armé de planches en bois et d'un pistolet à impulsion électrique. En réponse, une grosse vague d'indications et de mobilisation étudiante a saisi toute la France. Rennes 2, Le Mirail, Lyon 2, Paris 8, Paris 3, Tolbiac. À Tolbiac, je file un coup de main aux camarades. Le contexte est particulièrement tendu avec la présidence de la fac. Il faut dire que ce n'est pas simple de gérer une fac qui est en même temps un lieu de mobilisation au quotidien. Et les étudiants sont épuisés à force d'actions, d'AG, de manifestations. Mais le conflit est passionnant, long, intense. En même temps, c'est le printemps. Et oui, c'est le printemps, c'est bientôt le 1er mai. Alors, mon premier mai parisien. Un 1er mai à Paris, ce jour symbole pour les luttes des travailleurs, ça ne se rate pas. Il est 14h. Plein soleil. Il y a des familles, des militants d'un peu partout, des gens qui se retrouvent, des copains. Quand la manifestation débute, l'ambiance est joyeuse, populaire. Je traverse les différents cortèges. Nous marchons jusqu'au pont d'Austerlitz, d'où j'aperçois une fumée noire qui provient du McDo près de la gare. Je m'approche et en effet, des affrontements viennent d'avoir lieu. Je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé, mais en tout cas, un mouvement de foule m'emporte. Des gens courent dans tous les sens, se bousculent et presque se piétinent. On se retrouve plaqué contre les grilles du jardin des plantes. Des grenades lacrymogènes explosent. Nous sommes plongés dans un immense nuage de gaz et de confusion. On s'accroupit pour tenter de respirer un peu mieux. Certains tentent de forcer le portail du jardin. Il y a des agents du parc derrière. On les supplie. « Ouvrez, on va crever !» Mais les gardiens ne veulent rien entendre. Finalement, c'est un pompier qui arrive en courant avec une énorme pince Monseigneur. Il brise le cadenas de la porte et il se met à hurler sur les gardiens aussi. Et tout le monde se rue à l'intérieur du jardin pour respirer. Mais les flics nous poursuivent et tentent de nous rattraper. À ce moment-là, je remarque sur le côté un bataillon de policiers en civil ultra agressif. Ah ben disons, ceux-là, il vaut mieux pas qu'ils nous rattrapent. En fait, avec deux potes, on discute de quitter rapidement les lieux et de remonter vers le quartier latin. Il paraît qu'il y a un apéro militant organisé place de la Contrescarpe. Je suis à Paris depuis peu, mais je connais cet endroit. Il y a même une chicha que j'aime bien juste à côté. Donc, avec deux, trois copains syndicalistes, on s'installe et voilà, après l'effort, le réconfort. On discute de la journée, quand même assez noire, de la violence de la police, des tensions dans le cortège. On rejoint l'apéro militant, on se reconnaît, on rediscute de la manif. C'est vrai qu'il y en a qui ont pris cher aujourd'hui, hein. Les gaz, c'était terrible. Et j'apprends même que la manif n'a pas pu aller au bout du parcours. Tout à coup, tandis qu'on discute tranquillement, des flics déboulent et nous encerclent. Très rapidement, la place est nassée. Impossible d'entrer ou de ressortir. La tension monte, le grand cafouillage reprend. Des insultes des policiers qui se mettent à charger, envoyer les gaz. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On voit plus à 3 mètres, on a les yeux brûlants, on comprend plus rien. Et je reconnais le petit groupe en civil qui était là, que j'avais repéré un peu plus haut au jardin des plantes, les ultra-violents. J'allume mon téléphone, j'enclenche la caméra, je me dis que quand ils seront filmés, ils se calmeront peut-être un peu, mais non, bien au contraire. Ils veulent carrément nous empêcher de prendre des images. Et de l'autre côté de la place, il y en a un qui a tiré hors de la nasse une fille qui est avec un copain, et il les frappe. Je filme la scène de loin. Ce policier porte des coups, d'abord au jeune mec, puis à la jeune fille, puis de nouveau au jeune mec. Et c'est d'une violence incroyable, des coups de pied dans le ventre, des coups de poing au visage. Et d'autres policiers arrivent, nous aspergent de gaz et lui disent « Non, mais arrête, arrête !» Et à travers le rideau de fumée, on entend les cris du jeune homme « Arrêtez, arrêtez !» La caméra du téléphone devient mon seul œil. J'ai les yeux fermés. C'est la caméra, mon œil de substitution. Et là, en approchant, je dis « Mais arrêtez, lâchez-le, lâchez-le » L'homme avait déjà été neutralisé, mais ce civil, qui porte aussi un casque de CRS, s'acharne sur lui. Je m'approche et à la caméra, je peux voir nettement son visage. Je me dis qu'il faudra bien l'identifier. Cette scène, c'est en fait Tahab Ouaf qui a filmé ce qui va devenir l'affaire Benalla. Ce civil casqué qui frappait délibérément un jeune, pourtant même pas manifestant, c'est Benalla. En fait, quand Tahab Ouaf l'a filmé, bien sûr, il ne le connaissait pas. C'est une journaliste qui, juste après, a vu que cet homme casqué, c'était un conseiller du président. Donc l'affaire Benalla éclate à la suite du reportage de Tahab Ouaf. Et peu à peu, ces images, ces reportages vont devenir vraiment des reportages politiques. Et peu à peu, ces reportages vont faire de lui un jeune journaliste. Il va continuer, bien sûr, à circuler en France pour rencontrer des militants, pour témoigner. Mais peu à peu, à la suite d'ailleurs de la plaisanterie presque sérieuse d'un vrai journaliste, il va devenir, en effet, un reporter. Il part en particulier à Nantes, et c'est un nouveau témoignage dont il nous fait part.
Quartier du Breil, Nantes, 4 juillet 2018. Au milieu de la cité HLM de Breil, des petites filles se baignent dans une piscine gonflable. Il fait une chaleur à crever, une chaleur de juillet. On a l'impression d'un été paisible comme dans n'importe quel quartier de France. Mais si on tourne la tête, une patrouille de gendarmes mobiles se balade avec des armes lourdes à la main. Les habitants frôlent les murs. Une dame explose, les larmes aux yeux. On a l'impression d'être des esclaves dans notre propre quartier, contrôlés et surveillés en permanence. Depuis hier, le quartier du Breil vit ses heures les plus agitées. Un jeune de la cité, Aboubacar Fofana, 22 ans, est mort sous le tir d'un policier à bout portant. Excusez-moi. Un quartier tranquille, où les familles se connaissent la plupart du temps. Sauf qu'aujourd'hui, ce petit quartier tranquille est particulièrement agité. Des pleurs, des cris, des policiers qui jouent au cow-boy. Ils ont même installé un campement de gendarmes en plein milieu de la cité. Des voitures et des camions de police quadrillent toutes les entrées du quartier. Je m'approche et me présente à quelques habitants. Quoi dire exactement ? Finalement, je dis juste. Je m'appelle Taha et je milite sur la question des violences policières. Je leur dis que je suis là parce que je veux raconter la vraie histoire de la mort d'Aboubacar. Je commence à recueillir quelques témoignages, dont celui de Rim, une jeune fille du coin. Elle me sort son iPhone tout cassé, mais elle dit qu'elle a des vidéos importantes à me montrer. Elle me les envoie via AirDrop, et là c'est le choc. Je vois Aboubacar qui vient de se faire tirer dessus. Il est inconscient. Sa voiture est encastrée dans le muret d'un petit pavillon. Le flic gueule et ça hurle autour de lui. La confusion et la panique sont totales. Tout de suite, je propose à Rim de la filmer pour qu'elle me rapporte la version des habitants. Elle accepte. Plus tard, je posterai cette vidéo sur mes comptes Twitter et Facebook. Elle sera partagée instantanément des centaines de fois.
Oui, ce qui est frappant dans ce récit de la réalité du quartier du Breil à Nantes, c'est qu'on y retrouve les caractéristiques, par exemple, de la fiction de Dominique Manetti sur Marseille, qu'on avait lu il y a un mois environ. La police n'enquête pas vraiment, et par contre, elle couvre les violences de certains de ses membres. Il faut une mobilisation populaire pour obtenir des avancées vers la vérité. Le livre de Taha Bouhaf montre, en effet, brutalement, on prend conscience de cette réalité. Il y a une France à deux vitesses, une France avec une éducation à deux vitesses, une police et une justice à deux vitesses, qui légitime ceux qui réussissent, mais qui laisse de côté ceux qui ne sont rien. Il y a dans cette France à deux vitesses un refus des pauvres, un refus des immigrés, un refus des jeunes qui revendiquent et qui n'acceptent pas ce moule du néolibéralisme. C'est un constat terrible que fait peu à peu Taha Bouhaf, un constat d'un pays fracturé où les médias saupoudrent des vérités qu'ils choisissent pour assurer justement le maintien du fonctionnement d'un néolibéralisme qui blesse profondément les milieux populaires et qui construit délibérément la fracture et une France des laissés pour compte. On va en fait s'arrêter là pour cette semaine. Taha Bouhaf, malheureusement, il fait l'actualité d'une façon différente. Il aurait dû représenter à nouveau la France insoumise pour les prochaines législatives. Et puis, lui aussi, quelque part, il a dérapé dans la violence. Enfin, je ne m'avancerai pas, mais je dirais en tout cas qu'il n'est pas candidat de la France insoumise puisqu'il est accusé de violence sexuelle par une jeune femme du mouvement. Donc, ces dérapages, entre guillemets, violents, dans tous les cas, on peut les regretter, bien sûr, et on peut attendre que la vérité se fasse. Mais en tout cas, ce que vraiment tous ici nous déplorons, c'est l'espèce de laisser-aller d'une éducation qui n'existe plus, et qui ne donne plus une pensée structurée et qui, au contraire, fait qu'on a bien du mal à organiser notre pensée. Alors pensons au contraire que les élections arrivent bientôt et sachons dans quelle direction nous tourner et tourner nos bulletins de vote. À bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.